l'ont fait gagner.
Deux ?
Ouais. Un plus un.
Non mais on s'en garde un pour nous.
Non.
Et on offre l'autre tout aux auditeurs,
tout,
non ?
Tout pour les auditeurs. Oh. Tout pour les auditeurs.
Dur, Marina, vous êtes dur, vous êtes dur.
Oui.
Merci d'écouter RTL, il est 5h du matin.
RTL Matin, Jérôme Florent.
L'info, c'est avec vous, Tom Lefebvre. Elle a une ce matin, le coup d'envoi du bac pour les élèves de terminale cette fois.
Oui, alors ne parlez pas trop fort, Jérôme, ils dorment encore. Peut-être que certains révisent. À 8h, ils vont passer l'épreuve de philo. Dans le journal également, l'escalade meurtrière entre Israël et l'Iran. Quatrième nuit de frappe et de riposte entre les deux pays. Le Parti Socialiste en plein dilemme sur la censure, alors que le conclave sur les retraites s'achève demain. Et puis des adieux émouvants, ceux de Romain Bardet, le cycliste. Prend sa retraite.
Dans un quart d'heure, RTL Événement enquête sur ce phénomène inquiétant. Ces enfants enrôlés dans le trafic de drogue. Ils ont 10, 11, 12 ans et ils sont recrutés pour surveiller les points de deal.
RTL Matin.
Vous entendez ? C'est le silence qui va régner dans 3 heures maintenant dans toutes les salles d'examen du baccalauréat. Épreuve de philosophie à 8 heures ce matin pour les plus de 533 000 élèves de terminale. Début d'une semaine intense d'examen qui vont compter pour 60% de la note finale. Et pour motiver les enfants à viser la mention, Hortense Crépin, les parents rivalisent d'imagination en promettant une récompense à la clé.
Oui, alors il y a ceux qui préfèrent les cadeaux studieux.
Moi, ma maman, elle m'a promis 100 euros de livres. Donc, j'espère avoir une bonne note au bac de français.
Ou encore les élèves qui font monter les enchères.
200 euros et je les attends.
Et t'es sûre que tu l'as quoi qu'il arrive ou il y a une barrière
C'est à partir de 12 parce que je suis pas très très forte en français. J'ai 7 de moyenne, donc ça va être un peu dur, mais ça peut le faire.
Il y a aussi la promesse d'un vêtement, d'un bijou ou même d'un séjour.
Un voyage à Londres.
Et puis, il y a ceux qui jouent tout. Sur le bac.
Alors moi, mes parents m'ont dit que si j'avais pas le bac, j'avais pas en vacances en fait. Donc, donc oui, j'espère avoir le bac. Après la mention, ça fait toujours plaisir, mais sinon, pas de bac, pas de vacances. Hein.
Enfin, certains ont peut-être mal anticipé.
Ah non, j'ai pas négocié sur ce terrain-là. J'aurais peut-être dû. Non.
Mais il est encore temps de négocier puisqu'il faudra attendre le 4 juillet pour connaître les résultats du bac.
Effectivement, reportage d'Hortense Crépin à Paris pour RTL.
Pour la quatrième nuit consécutive, Israël a multiplié les frappe sur l'Iran qui a riposté de son côté par de nouveaux tirs de missiles.
Il y a quelques heures, l'armée israélienne a annoncé viser des sites de missiles dans le centre du pays. En réponse, de fortes explosions ont été entendues à Jérusalem. Jusqu'où ira l'escalade entre les deux pays ? Du côté de l'Iran, on parle au moins de 224 morts depuis vendredi et plus d'un millier de blessés. Côté israélien, au moins 13 morts. On va aller aux États-Unis tout de suite retrouver notre correspondant Arnaud Touche. Arnaud, on a du mal à comprendre la position de Donald Trump qui s'est dit ouvert à une implication américaine, mais qui s'oppose au plan israélien d'éliminer le guide suprême iranien.
Oui, les autorités israéliennes ont prévenu la Maison-Blanche qu'ils avaient l'opportunité de tuer le guide suprême iranien. Mais selon l'agence Reuters, qui cite des officiels américains, Donald Trump aurait mis son veto à cette opération. Depuis le début des frappes israéliennes en Iran, Donald Trump refuse d'intervenir militairement. Il craint que des bases américaines dans la région soient visées en représailles. Pour autant, les Américains aident Israël à se défendre contre les missiles iraniens en apportant notamment un soutien technologique. Et le président a d'ailleurs confirmé qu'ils allaient continuer. Cette nuit, Donald Trump a dit à la presse qu'il y avait de bonnes chances qu'un accord soit conclu entre les deux pays pour une désescalade. Et un peu plus tôt, il avait déclaré aussi qu'il était possible que les États-Unis s'impliquent dans le conflit, mais que ce n'était pas le cas à cet instant précis.
Donald Trump qui parle aussi, Arnaud, d'une possible négociation pilotée par Vladimir Poutine.
Oui, les deux hommes se sont parlé pendant une heure samedi, juste avant la parade militaire à Washington. Le président américain a confirmé qu'il était ouvert à ce que Vladimir Poutine joue un rôle de médiateur dans le conflit entre Israël et l'Iran. Il a même ajouté que son homologue russe était tout à fait prêt à endosser ce rôle et qu'ils en ont longuement discuté. Les deux chefs d'État doivent d'ailleurs s'appeler à nouveau cette semaine.
Arnaud Touche aux États-Unis pour RTL. La France, en tout cas, n'a participé à aucune opération défensive d'Israël. C'est Emmanuel Macron qui l'a fait savoir hier soir. En déplacement au Groenland, c'est la première visite d'un chef d'État étranger sur place depuis les menaces d'annexion de Donald Trump. Emmanuel Macron qui est attendu aujourd'hui au Canada où doit s'ouvrir le sommet du G7.
Dans l'actualité également, la dernière réunion du conclave sur les retraites est prévue demain et voilà que revient la petite musique de la censure.
Oui, cette fois chez les socialistes, alors qu'effectivement les négociations s'achèvent. En début d'année, le PS avait négocié avec François Bayrou une non-censure du gouvernement à condition qu'une loi sur les retraites reviennent au Parlement. Alors, qu'en sera-t-il ? Le sujet était au cœur du congrès du PS qui s'est tenu ce week-end à Nancy, Marie-Bénédicte Thaler.
Sur le papier, c'est simple, les socialistes attendent une loi. Et sans loi, il y aura censure, rappelle le député Arthur Delaporte.
Alors nous avons toujours dit que s'il n'y avait pas de respect de la promesse du Premier ministre, c'est-à-dire pas de retour au Parlement pour discuter sérieusement des retraites, nous censurions et cette piste est toujours sur la table.
Boris Vallot, le patron du groupe PS, reste toutefois prudent en attendant la fin effective du conclave.
Tout est envisageable. La question, c'est les circonstances. Les motifs.
Car pour certains socialistes comme Philippe Brun, tout dépendra de l'avis des syndicats. En clair, la CFDT.
Nous verrons bien. En tout cas, nous serons à l'écoute des ceux qui sont autour de la table aujourd'hui et qui négocient. Et un tien vaut mieux toujours que deux, tu l'auras.
Pour d'autres, comme Laurent Baumel, la seule option, c'est de revenir aux 62 ans, quitte à amender un projet de loi issu du conclave.
La CFDT est dans son rôle, nous dans le nôtre. Nous, on a des électeurs, on a pris des engagements et c'est une réforme emblématique.
L'horizon, c'est la rentrée de septembre. Ce n'est pas la première fois, en tout cas, que les socialistes débattront sur l'opportunité de censurer le gouvernement Bayrou ou pas.
Marie-Bénédicte Thaler. Trois infos à retenir en bref ce matin. D'abord, cette chasse à l'homme à Pau. La police est à la recherche d'un homme qui a poignardé à trois reprises une personne samedi matin. La victime qui est désormais hors de danger. Ce séisme dans le monde de l'automobile. Après 5 ans à la tête du groupe Renault, Luca De Meo quitte la marque aux losanges. Il devrait reprendre la direction générale du groupe de luxe Kering, selon nos confrères du Figaro. Et puis, si vous prenez régulièrement le train entre Paris et Marseille, le prix des billets va-t-il baisser prochainement? La ligne est désormais ouverte à la concurrence. Depuis hier, Trenitalia propose 4 liaisons par jour avec des arrêts à Lyon, Avignon et ex-TGV.
On passe au sport avec d'abord le foot, Tom.
Et l'entrée réussie pour le Paris Saint-Germain à la Coupe du Monde des clubs. Nos champions d'Europe ont battu hier soir pour leur premier match l'Atlético de Madrid 4-0. Les félicitations du matin, elles sont pour Johan Benjamin Gaba, notre judoka français. Il a décroché l'or à Budapest. Il est désormais champion du monde chez les moins de 73 kilos. Et puis des adieux, ceux de Romain Bardet à 34 ans. Il a mis fin hier à sa carrière de cycliste à l'issue du critérium du Dauphiné. Et même le peloton lui a rendu hommage avec une haie d'honneur.
Je suis épuisé honnêtement. Je me suis accroché jusqu'au pied de l'ascension pour avoir le plaisir de la faire tranquille avec Chris et d'en profiter une dernière fois. J'arrive plus à souffrir pour une 15e place et j'ai beaucoup donné et là je sens que le réservoir est complètement vide. Je vais être content de retrouver les miens et de ne pas avoir dès demain ou après-demain un timing en tête pour la prochaine course.
Voilà, Romain Bardet au micro d'Eurosport. Il avait terminé, hein, souvenez-vous, deuxième du Tour de France. C'était en 2016.
Votre champion du jour.
Ah, ce sont les Chinois. Alors, ils ont carrément un coup d'avance sur nous. Je parlais du bac en début de journal. C'est aussi l'équivalent du baccalauréat chez eux. Mm-hmm. Et face à la crainte de triche avec l'intelligence artificielle dont on a parlé ces derniers jours, eh bien là, les autorités ont supprimé tout risque de triche puisque sur tous les logiciels comme ChatGPT, Pékin a bloqué tout les requêtes liées aux examens, c'est-à-dire impossible de rentrer un problème de maths ou un énoncé de philo. Si un élève prend une photo du problème, par exemple, ça affiche un message d'erreur automatiquement, ce qui permet d'avoir aucun soupçon. Et alors pour ceux qui essaieraient discrètement quand même d'aller sur Google, ou voilà, des caméras intelligentes sont placées dans les salles de classe pour détecter tout comportement suspect et même les bavardages.
C'est horrible, on n'arrive même plus à tricher.
C'est quoi cette période?
Bon, c'est radical, mais en tout cas ça marche. Merci Tom. À 6h10, vous allez en entendre parler ce matin.
Entendre parler du plus grand paquebot de croisière au monde. 40 restaurants, une patinoire, jusqu'à 10 000 personnes à bord. Première croisière prévue cet été.
À mon avis, ça pollue, non?
Oui, je pense.
On salue Laurent, il est à Rodez, ciel étoilé, 16 degrés ce matin.
Voilà, on salue Doumé aussi, qui a 13 degrés, un ciel dégagé à Jussey en Haute-Saône. Et hier, il a rejoint le club des 59 ans, donc c'est son anniversaire. Et aujourd'hui, c'est la reprise du boulot après une semaine de vacances. Il en profite pour souhaiter une bonne semaine aux collègues des transports Loriot. On vous souhaite un joyeux anniversaire plus un jour, Doumé. Cédric, lui, nous fait un petit coucou de l'île Maurice, où il vit maintenant depuis bientôt un an. Je n'ai pas perdu mes bonnes habitudes à vous écouter le matin. Tant mieux, merci beaucoup Cédric. Christian est à Nantes, le ciel est clair ce matin et il a 18,3 degrés sur son balcon, nous dit-il. Marie-Josée, elle, est à Aubigny-sur-Nerre dans le Cher, 11 degrés et un ciel dégagé. On fait un coucou à Henri qui est à Rouget en Loire-Atlantique, 11 degrés, le ciel est clair. Et puis Sébastien qui a une grande douceur et beaucoup de vent dans les champs de Tressan, c'est dans les roues.
Nicolas Sarkozy perd sa Légion d'honneur. Est-ce que vous êtes choqué ou est-ce que vous comprenez décision prise après sa condamnation confirmée pour corruption dans l'affaire dite des écoutes? On vous attend sur ce sujet ce matin au 32-10. À suivre, notre reportage sur ces enfants recrutés par les dealers. Ils ont 10 ans, 11 ans, 12 ans. RTL événement à suivre. Et puis notre archive, juste avant 5h30, la mort de Thierry Roland d'une crise cardiaque après une victoire des Bleus. On l'apprenait le 16 juin 2012. Dans la presse ce matin, étang sous plastique, c'est la une de Corse Matin. Pour la première fois, des études sur la contamination aux microplastiques ont été réalisées dans 21 lagunes françaises. Et c'est en Corse qu'on trouve les étangs les plus impactés par cette pollution, nous apprend le journal. Les étangs de Biguglia et de Diane, dans la moitié nord de l'île, avec des valeurs très supérieures à la moyenne. Le lac de Diane, par exemple, atteint un niveau de 289 particules plastiques par kilo de sédiments. 289, quand la plus haute valeur sur le continent atteint le chiffre de 103. Donc vous voyez, on est quand même bien au-dessus. Alors, les spécialistes cherchent à expliquer ce phénomène. Ça peut être les apports des cours d'eau en amont, eux-mêmes pollués par les activités humaines. Il y a souvent des plastiques qui se dégradent dans l'environnement, avance un expert de l'IFREMER qui a réalisé ces études. Mais les chercheurs restent prudents. Ces résultats, il faudra encore les conforter avant de pouvoir bien les expliquer. En tout cas, c'est étonnant. C'est-à-dire ce matin, dans Corse Matin, étant sous plastique.
RTL, le podcast du jour.
Et aujourd'hui, je vous invite à écouter le nouvel épisode d'une lettre d'Amérique avec Arnaud Touche, le correspondant de RTL et de M6 aux États-Unis. Il revient avec Aude Vernuccio sur les manifestations qui se sont multipliées ces derniers jours pour dénoncer la politique migratoire de Donald Trump en Californie. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir aux États-Unis.
À Paris notamment, on bloque souvent le périphérique. Ça n'arrive quasiment jamais ici aux États-Unis, que ce soit pour les grandes manifestations ou d'autres. Ouais. C'est pour ça que ça a choqué aussi l'Amérique. On a pu voir une garde à cheval. Ça aussi, ce n'est pas courant. J'ai envie de vous dire que ça faisait longtemps, en réalité, qu'il n'y avait pas eu de manifestation comme celle-ci à Los Angeles. Et c'est un bras de fer, finalement, qui commence entre l'administration Trump et les autorités californiennes, puisque tout est parti de là-bas, en réalité. Los Angeles devient en quelque sorte le symbole de la résistance locale face aux politiques migratoires qui sont voulues par Donald Trump. C'était d'ailleurs l'une de ses promesses de campagne.
Et pour retrouver ce podcast en intégralité, vous allez sur rtl.fr où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone. Dans la barre de recherche, vous tapez une lettre d'Amérique.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Vous voulez préparer votre retraite tout en réduisant vos impôts? Eh bien, restez à l'écoute d'RTL pour tout savoir sur le plan épargne-retraite proposé par Fortuneo.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Tout à l'heure, dans l'heure du crime, une enquête truquée. Mensonges, faux procès-verbaux, indices détruits. Bénédicte Belair s'est officiellement tuée lors d'une chute. Et si tout au contraire, elle avait été battue à mort? Quand l'enquête est aveugle, l'affaire Bénédicte Belair. Tout à l'heure, 14h dans l'heure du crime.
L'heure du crime, c'est l'émission fait divers la plus écoutée de France.
RTL Matin. Et à l'instant, je vous donne cette information que nous donne notre correspondant Arnaud Touche aux États-Unis, justement, l'homme soupçonné d'avoir abattu une élue démocrate dans le Minnesota ce week-end. Cet homme a été arrêté. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également ce matin, l'escalade militaire qui se poursuit entre l'Iran et Israël. Israël annonce affronter une nouvelle salve de missiles iraniens en ce moment. De fortes détonations ont été entendues il y a quelques heures à Jérusalem. Dans la soirée, Benjamin Netanyahou a affirmé que son armée avait détruit l'un des principaux sites nucléaires à Natanz, dans le centre de l'Iran. Le bilan des frappes depuis vendredi est d'au moins 224 morts en Iran, 13 en Israël.
RTL événement.
On a enquêté sur donc ce phénomène inquiétant, on vous en parlait tout à l'heure, celui des enfants enrôlés dans le trafic de drogue, et ce, dès l'âge de 10 ans. C'est notre RTL événement ce matin avec vous, Mathieu Lopineau, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous.
Les trafiquants donc qui recrutent de plus en plus jeunes pour surveiller les points de deal, on les appelle les choufs, des guetteurs chargés de donner l'alerte aux trafiquants à la moindre présence policière. Vous êtes rendu dans le quartier de Villejean à Rennes où tout est parti d'une vidéo devenue virale sur TikTok.
Oui, vidéo vue plus d'un million de fois où on voit un enfant de 10 ans crier pour prévenir les trafiquants de drogue du passage de la police.
Ah ouais, t'as...
Il se fait appeler le guetteur le plus jeune de France, Mini Rapace. Dans le quartier de Villejean, gangréné par le trafic de drogue depuis quelques années, je retrouve une habitante du quartier qui souhaite rester anonyme. On marche ensemble et autour de nous, des guetteurs particulièrement jeunes.
Oui, oui, 10, 13, 15 ans, ouais. Et donc du coup, ils sont là matin ou soir. Je pense qu'on l'a constaté depuis le Covid, qu'ils soient aussi jeunes.
Tout le monde sait ce qu'ils font.
Plus ou moins.
Ils se cachent pas.
Ah non, bon.
Du coup, vous voilà. Les connaissez, hein.
Ah ouais, mais ça m'arrive de leur dire bonjour, des fois ils discutent. C'est la vie de quartier, c'est comme ça.
Quand votre fils était plus petit, quand il était à l'école, il y en avait un camarade de classe qui était guetteur.
Il y en avait plus d'un, ouais, à partir du CM1.
Il est devenu quoi aujourd'hui?
Bah, ils sont pratiquement tous dealers.
Comment des enfants si jeunes sont recrutés par les dealers?
Fatima, bénévole dans l'aide aux devoirs, a vu les dealers les approcher dès la sortie de l'école.
Certains enfants sont alpagués par les dealers. Tiens, tu peux aller me chercher un kebab ou une canette de coca. On leur dit, bah, tu gardes la monnaie. Et ça commence comme ça. J'ai vu des élèves en primaire qui, malheureusement, font les chouffes maintenant. Les dealers ont toujours des baskets dernier cri, ont des téléphones dernier cri. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte du danger de la drogue. Ils se disent que c'est de l'argent facile.
Il est donc difficile de sortir de cet engrenage, comme le déplore Régine, une maman du quartier.
C'est les enfants avec leurs casquettes sur leur trottinette.
La vidéo qui tourne là du petit garçon qui doit avoir 10-12 ans, vous le connaissez celui-ci?
Oui.
Il va à l'école quand même?
Ah oui, il va à l'école, ouais. C'est vraiment triste. Ouais.
Combien ils peuvent se faire à peu près, les enfants?
150-250 euros que
par
le
jour.
Risque.
Ouais. Après, quand ils sont plus grands, qu'est-ce qu'ils deviennent?
Il n'y a pas de secret, hein, c'est que c'est en prison.
Vous connaissez les parents?
Oui, beaucoup sont démunis. Une sorte d'omerta de honte pour ne pas être jugé.
À l'endroit où ils guettent, à l'endroit où ils chouffent, il y a des fusils. C'est risqué pour eux.
C'est risqué, c'est dangereux, des balles perdues, donc oui.
Mathieu, ces mineurs, ces jeunes enfants, ils peuvent être arrêtés par la police, mais ils ne seront pas poursuivis par la justice.
Oui, début avril, la police a arrêté 12 guetteurs. 10 étaient mineurs, le plus jeune avait 12 ans. Frédéric Gallet, le secrétaire départemental Ille-et-Vilaine du syndicat de police Alliance.
Ils traînent en vélo, en trottinette, ils sont autour des points. C'est un jeu quand ils se font interpeller, mais c'est limite une fierté quand ils sont jeunes. Ils retournent chez eux, ils ressortent dehors et ils recommencent. Ils savent très bien qu'ils ne risquent rien. Ils ont l'exemple des grands qui leur expliquent que de toute façon, tant qu'ils sont mineurs, ils n'auront rien. Il n'y a même pas de menottage, il n'y a rien. On les garde au poste, on appelle les parents, ils viennent les chercher. C'est juste des signalements, des rapports. C'est tout ce qu'on peut faire. Les réseaux sociaux participent à une émulation dans ce cercle vicieux de l'argent facile.
Oui, d'où l'importance pour les policiers de surveiller aussi les réseaux sociaux, car c'est également là que les dealers repèrent et recrutent les jeunes guetteurs.
Reportage RTL événement signé ce matin, Mathieu Lopineau avec donc ses enfants, ses mineurs hein, qui participent au trafic de stupéfiants en France.
Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute.
Nicolas Sarkozy perd sa Légion d'honneur. Est-ce que vous êtes choqué ou est-ce que vous comprenez? On en parle ensemble ce matin.
Avec un fidèle, Denis Daverne dans l'Allier. Bonjour Denis.
Bonjour Denis.
Bonjour. Bonjour, vous allez bien?
Bah, oui, très bien. Et vous-même, vous êtes sur la route là?
Non, je vais démarrer là dans un quart d'heure, le temps d'aller au camion et...
Très bien, vous n'avez pas l'accent de l'Allier, hein, on va dire.
Non, ben chez moi, ils trouvent que je parle parisien.
Ah, ouais. Ah bon, on trouve que vous avez l'accent parisien, sans blague.
Pas trop quand même. Hein.
Bon, Nicolas Sarkozy a perdu sa Légion d'honneur, ça a été publié hier au Journal officiel. Décision prise après sa condamnation confirmée pour corruption dans l'affaire dite des écoutes. Vous n'avez pas été choqué par cette décision?
Ah ben non, c'est force à la loi. Qui vole un œuf, vous connaissez l'adage. Hein. Alors, voilà, c'est comme ça, c'est une distinction. Hein. D'autant plus que je crois qu'il est commandeur de la Légion d'honneur.
Oui.
Ôtez-moi d'un doute. Ça veut dire qu'il peut, je crois qu'il peut décerner lui des Légions d'honneur.
Donc vous trouvez que quand on a ce genre de titre-là, de ce genre de distinction, il faut être irréprochable?
Ah ben oui. Ça, il faut être totalement irréprochable. Condamné à un an de prison ferme, bracelet, pour moi, la Légion d'honneur, elle saute.
Mais vous avez entendu certaines figures de la droite dire que c'est une humiliation quand même pour cet ancien président?
Bah, une humiliation, quand on est condamné, on est condamné, on accepte le jugement et puis on se tait, c'est tout. Si vous voulez que je vous dise, ça, c'est surtout à l'heure actuelle, les gens en ont marre que la loi passe. Il y a celui qui connaît le juge et il y a celui qui connaît la loi, quoi. Les condamnations, c'est pour tout le monde pareil, quoi.
Donc ça n'est que justice.
Ce n'est que justice, oui. Et c'est pas très grave. Hein.
En tout cas, le débat fait rage, hein, Tom, chez les auditeurs ce matin.
Oui, ils sont pas d'accord sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Vous pouvez évidemment commenter comme tous les jours. Pour Lionel, ce qui est choquant, c'est de le comparer à Pétain. L'un a été condamné pour écoute téléphonique à son avocat. L'autre a trahi la France et pactisé avec un dictateur. Cherchez l'erreur. Vincent lui répond, il n'est pas du tout d'accord. Ce qui aurait été choquant, c'est qu'il la garde, cette Légion d'honneur. Christiane est d'accord, ce n'est que la loi. Et puis, je vous lis le message de Ginette. Il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures. Cessons tous ces privilèges au détriment du français moyen.
Alors, en précisant que cette exclusion de la Légion d'honneur est automatique, hein, quand un récipiendaire est définitivement condamné. Voilà, c'est ce que disent les textes. C'est une décision qui était prise par le grand chancelier, mais cette décision, elle est automatique en réalité. Donc, il y a un débat, mais en même temps, il n'y a pas de débat.
Oui, c'était la règle de départ.
C'était la règle. Voilà, merci Denis.
Eh bien, je vous dis bonne journée et bonne semaine à tout le monde.
Quel est le programme pour bonne cette semaine, Denis?
Ah ben là, je vais laver, je suis un chimique, moi je vais laver à Charny-sur-Sonde, je charge en Alsace pour monter à côté de JV dans les Ardennes.
Ah oui, donc c'est une belle route. Bon, ce sera pas trop mal comme route, hein. Peut-être 2-3 petites averses ce matin, mais pas grand-chose. Hein.
On a du brouillard ici. Hein.
Ah oui?
Je sais pas si vous l'avez vu, ouais, sur Moulins, énormément de brouillard. Hein.
Donc du brouillard dans l'Allier, je le note.
Voilà, vous participez à la création de la météo de Marina,
ouais,
c'est important.
Oui, j'ai besoin d'aide, merci.
Ah, je suis suspendu le matin à son écoute.
Ah bah oui, on l'est tous, ça, vous savez. Merci beaucoup, Denis, on vous souhaite une très très bonne journée, on vous dit à bientôt.
Bonne route à vous. Hein.
À vous aussi.
Merci,
Denis. Merci, au revoir.
Au revoir.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
J'ai accouché à la maison, en pleine campagne, grâce à l'appui du SMUR et les ambulanciers.
Moi, je suis militaire, j'ai été blessé en opération. Comment vous expliquer que quand on est blessé, on nous insulte bon à rien, on nous pousse à quitter l'institution?
Je suis contre la suppression de l'espèce. Est-ce vraiment pour enrayer le trafic de la drogue ou pour mieux contrôler tous les Français?
Vous aussi, vous souhaitez partager votre point de vue sur un sujet d'actualité? Vous êtes au bon endroit. Tous les jours à 13h, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Tout savoir sur la cardiomyopathie hypertrophique avec l'Alliance du Cœur et le soutien de Bristol Myers Squibb. Pour en savoir plus sur cette maladie cardiaque génétique méconnue, rendez-vous dans un instant.
Les pépites RTL.
Notre pépite, chaque matin, on vous ouvre nos archives pour retrouver ces sons et ces voix qui vous ont fait vivre l'histoire en direct. Le samedi 16 juin 2012, les auditeurs de RTL se réveillent en apprenant la mort de Thierry Roland, à 74 ans. Le journaliste sportif décède brutalement peu après la victoire de l'équipe de France de foot contre l'Ukraine à l'Euro. C'est son ami Eugène Saccomanno qui sera le premier à faire part de son émotion sur RTL.
RTL Matin, 8h37, Florence Cohen.
Voilà, on devait repartir dans ce journal avec donc l'information sur l'entreprise Camailleux qui demande à ses salariés d'aller toucher le RSA au lieu d'avoir une augmentation de salaire. Mais on vient d'apprendre une information de dernière minute. C'est le décès de Thierry Roland, commentateur sportif, commentateur de football. Thierry Roland avait 74 ans. On est en ligne tout de suite et en direct, évidemment, avec Eugène Saccomanno. Bonjour Eugène.
Bonjour.
Il est décédé cette nuit, hein, Thierry Roland, juste après le match des Bleus, si j'ai bien compris.
Bah, c'est ce que l'on m'a dit, parce que moi, il n'y a pas longtemps que je l'ai appris, bien sûr, et j'ai été terriblement choqué, surpris, parce que j'ai vu Thierry il y a encore une quinzaine de jours, il était en parfaite santé, c'est apparemment sur une crise cardiaque, et je crois que Thierry supportait difficilement des fortes émotions, et là, la victoire de l'équipe de France hier soir, il était terriblement impliqué dans les résultats de sport, et particulièrement de football. Ça, je me souviens, par exemple, tout le monde se souvient des mots qu'il avait prononcés après la finale de la Coupe du Monde en 98. Il avait dit maintenant, tout, on peut mourir, tout peut nous arriver. Moi, je suis très ému.
Oui, j'entends ça. Alors, on va vous laisser reprendre 5 secondes vos esprits, Eugène. Quel camarade c'était Thierry Roland? Souvent, la formule consacrée, on demande quel souvenir vous gardez de telle personne. Là, on vous cueille à brûle pour point. Quel camarade c'était?
Non, mais c'était un camarade formidable qui amenait beaucoup de joie dans le bataillon des journalistes de football.
Eugène Saccomanno, le jour de l'annonce de la mort de Thierry Roland, c'était sur RTL le 16 juin 2012. Vos pépites tous les jours dans les petits matins grâce à notre service des archives et merci cette semaine à Florence Larcade.
RTL.
Voici un extrait de vos grosses têtes que vous retrouvez tous les jours entre 15h30 et 18h avec un hommage à Brian Wilson, le cofondateur des Beach Boys, décédé la semaine dernière. Ah, c'est pas ça, me dit-on.
C'est non, pas le bon extrait.
Ce serait sur l'affaire Beaugrand.
Ah ouais, sur l'affaire Christophe Beaugrand.
Et le très bien.
Et toi, comment ça va, mon Christophe?
Ah, oh, monsieur. Ah, vous êtes au courant, les nouvelles arrivent jusqu'en Corse.
Et oui, parce que figurez-vous que, au même moment qu'il lui est arrivé ce fait divers épouvantable, mes deux boucs sont montés sur le toit. Et qu'est-ce que j'apprends? Que mon Beaugrand est monté sur le toit.
Oui, c'est vrai.
Mais j'avais très peur pour mes boucs.
Bah,
t'as
sûr.
Pas eu peur pour ton fils, toi?
Si, mais moi je le tenais, j'étais avec.
Il a pas galopé sur le toit?
Non, je le tenais. Il a pas
moi, j'ai été plus ému par l'affaire Beaugrand que par ton affaire.
Oui, moi aussi.
Voilà, les grosses têtes qui chambraient leur petit camarade Christophe Beaugrand, victime il y a quelques jours d'un homejacking. Vos grosses têtes avec aujourd'hui Fabrizio Bouchella, Vincent Cespedes, Caroline Diamant, Christine Bravo, Stommy Bugsy et Christophe Beaugrand.
Et c'est un beau cadeau.
Et c'est un beau cadeau. Et j'allais dire l'extrait consacré à Brian Wilson, l'ancien chanteur des Beach Boys, décédé la semaine dernière. On l'écoutera tout à l'heure. Juste avant 6h30.
C'est noté.
Et puisqu'on parle musique, bah justement, ce matin.
Disque vinyle, deux disques vinyle, c'est ce que l'on vous offre de Françoise Hardy. Alors, c'est Intégrale Vogue, c'est sur 5 années, hein, 1962-1967. Tous les titres ont été entièrement remasterisés. C'est vraiment ces 5 années où on va dire qu'elle a commencé à exploser, Françoise Hardy.
C'est même l'âge d'or.
Hein. Ouais, l'âge d'or, exactement, avec plein d'extraits. Vous en voulez quelques-uns?
Ah, s'il vous plaît.
Allez,
oui.
Tous les garçons et les filles.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux.
Il y a un son. Alors tous ces titres, ils ont été remasterisés hein, sur cette compilation qu'on vous offre ce matin. Il y a aussi Mon ami la rose.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
Et il y a un titre, moi, que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous le connaissiez. L'amitié.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages.
Oui.
Avec soleil et pluie comme simple bagage.
Vous connaissiez Tom?
Non, s'il vous plaît.
Eh oui.
La plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux.
Voilà, double vinyle qu'on vous offre ce matin sur RTL. Pour le gagner, c'est très simple.
Il faut appeler le 3210 et ce sont les deux plus rapides qui remporteront ce double vinyle de Françoise Hardy. Bonne chance à tous, 3210.
Bonne chance à tous et puis dans moins d'une demi-heure, on vous offre un beau séjour. Très très beau séjour dans un bel hôtel qu'a testé Marina. Parce que Marina maintenant s'est mise en tête de tester les cadeaux avant de vous les offrir.
Non, c'est juste que c'est dans mon coin, donc je connais un petit peu. Mais franchement, ce sera chouette. Hein. Trois nuits, trois jours, deux nuits, des soins hydrothérapie, tout ça, ce sera dans un hôtel 4 étoiles, côte ouest, au Sable d'Olonne, en Vendée.
Forcément, en Vendée, c'est forcément très très beau.
Penserez à moi quand vous y serez.
Il fait très chaud ce matin déjà, Marina, dans le sud-est. Ça changera cet après-midi d'ailleurs, mais pour l'instant, c'est très chaud.
Exactement, des températures. Dans le sud-est, entre là 21 et 24 degrés. On a même là en ce moment jusqu'à 28 à Calvi. C'est la température relevée à 5 heures. Il faut savoir qu'hier, en Corse, on a eu jusqu'à 39 degrés. 39,3 degrés plus précisément à Figari. Donc il a fait très très chaud, d'où ces températures très chaudes, notamment en Corse. Mais on a aussi des températures chaudes vers le littoral méditerranéen, puisqu'il fait 24 degrés en ce moment à Toulon. On a 22 à Montpellier, 22 aussi à Nice. Alors plus on va vers le nord, plus ça baisse. Hein. 14 à Clermont-Ferrand, seulement 10 degrés en ce moment à Nemours. Il fait 13 degrés à Lille. Et cet après-midi, les températures vont remonter sur l'ouest du pays. Elles vont baisser un petit peu dans le sud-est. Mais enfin, il fera chaud quand même, mais moins chaud qu'hier. Et puis dans le nord-est, ce sera soit en baisse, soit stationnaire. Alors dans le détail, cela donne 19 degrés à Cherbourg au meilleur de la journée. Vous aurez 20 à Brest. Il fera 21 à Caen, 23 à Mulhouse, 24 à Clermont-Ferrand et Strasbourg, 25 à Lille, 25 aussi à Nevers et à Dijon, 26 pour Paris, Nantes et Lyon. Vous aurez 27 à Toulouse, à La Rochelle et à Bordeaux, 28 à Montauban, 29 degrés à Ajaccio, 30 à Marseille, 31 à Toulon et 32 à Montpellier.
Vous avez une belle écriture, Marina, je suis en train de regarder vos feuilles.
Ah oui,
c'est vrai. Je me faisais la réflexion parce que
je peux mieux faire.
On dirait du Arial 16.
Du Ariel 16. D'accord.
Dans le ciel, Marina.
Alors, dans le ciel, ce sera de mieux en mieux après ce week-end très orageux. Déjà, il n'y a plus d'orages, hein, ça c'est la bonne nouvelle, plus de vigilance. Donc, les traces que l'on a de ce qui est passé hier, en fait, ce sont des nuages avec parfois encore des petites averses là, sur la façade est, donc plutôt de l'Alsace à la Franche-Comté jusqu'au nord de Rhône-Alpes. On a aussi des nuages et quelques brumes et brouillards, des côtes bretonnes en remontant vers la Normandie. Des brouillards aussi dans l'Allier, hein, notre fidèle Denis nous l'a dit tout à l'heure. On a des passages nuageux vers les Pyrénées, mais sinon ailleurs le ciel est clair. Et puis dans l'après-midi, ces nuages vont globalement se dissiper et ça restera très agréable, même si quelques-uns résistent sur le tiers nord du pays et le nord-est. Ce seront des cumulus de beau temps, donc pas désagréables. Sinon, partout ailleurs, ce sera du bleu avec, à signaler, du Mistral et de la Tramontane.
Merci Marina. Et soyez les bienvenus si vous démarrez la journée maintenant et vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Il est 5h30.
RTL Matin, Jérôme Florent.
On accueille William Galibert pour le journal. Bonjour William.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, une nouvelle nuit de bombardements entre Israël et l'Iran.
Avec de fortes détonations entendues à Jérusalem, écoles fermées, rassemblements publics interdits, la vie a radicalement changé depuis 4 jours en Israël. Dans l'actualité, dans ce journal, des passeurs afghans jugés à Lille après un naufrage dans la Manche. Le bac de philo ce matin. Également un restaurant étoilé qui propose de payer en 3 fois sans frais. Et puis les débuts faciles du PSG en Coupe du Monde des clubs, succès 4-0 contre l'Atlético de Madrid.
Après votre journal, RTL Autour du Monde au Groenland avec notre envoyé spécial pour la visite d'Emmanuel Macron, venu soutenir l'île face aux assauts de Donald Trump qui rêve d'en prendre le contrôle.
RTL Matin.
Quatrième nuit de frappe entre Israël et l'Iran. L'armée israélienne affirme qu'elle a visé ces dernières heures des sites de stockage de missiles dans le centre de l'Iran. Et de l'autre côté, les sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti à Jérusalem un peu après 3h du matin, sans que l'on sache pour l'instant si des dégâts ou de nouvelles victimes sont à déplorer. Eleonore Veil, on vous retrouve en Israël pour RTL à Tel Aviv, où la tension monte au sein de la population dans un pays qui vit au ralenti.
Écoles fermées, lieux de travail à l'arrêt, rassemblements publics interdits et l'espace aérien est également fermé. Impossible de quitter le territoire donc ou d'y revenir. Une réalité brutale pour la population qui ces dernières semaines s'était presque habituée aux tirs de roquettes depuis le Yémen. À Tel Aviv, certains ne se donnaient même plus la peine de descendre dans les abris. Mais cette fois la tension est d'un autre ordre. Les regards sont constamment rivés vers les téléphones et chacun suit les consignes avec précaution. À chaque riposte iranienne, le bilan humain et matériel alourdit un peu plus ce climat d'inquiétude. Et même si le soutien à cette guerre demeure important dans le pays, l'incertitude gagne aussi du terrain. Chacun ici comprend aujourd'hui que cette parenthèse dans laquelle le pays est plongé pourrait bien durer.
Eleonore Veil en Israël pour RTL, et cette inquiétude on la retrouve aussi au sein de la population iranienne et de la diaspora iranienne. Écoutez Maître Ardavan Amiraslani, il est avocat franco-iranien au barreau de Paris et il est en contact quotidien avec Téhéran.
L'ambiance sur place est celle d'une ville assiégée, avec une population tétanisée, extraordinairement inquiète. J'entends les pleurs de l'autre côté, j'entends les enfants qui pleurent de par le bruit des bombardements. Il y a, si vous voulez, un sentiment de fragilité de l'existence qui a envahi la population de Téhéran et un sentiment total d'impuissance de leurs proches à l'étranger.
Un témoignage recueilli par Johanna Chabas. L'espoir diplomatique vient peut-être du Canada où le sommet du G7 va débuter. Donald Trump vient d'arriver sur place et appelle les deux pays, Israël et Iran, à trouver un accord.
Dans l'actualité également ce matin, ces deux fusillades qui ont eu lieu ce week-end dans des camps de migrants autour de Dunkerque.
Vraisemblablement des règlements de compte entre passeurs. Un homme est décédé hier soir. Et c'est dans ce contexte que s'ouvre un procès à Lille ce lundi. 10 passeurs présumés, 8 Afghans, un Irakien, un Syrien, soupçonnés d'être impliqués dans un naufrage mortel lors d'une traversée vers l'Angleterre à la fin de 2022. Ces réseaux sont extrêmement difficiles à démontrer, avec des passeurs qui se présentent eux-mêmes comme des candidats à l'exil, Frank Hanson.
C'est l'analyse des portables des rescapés et de plusieurs lignes téléphoniques qui ont permis d'identifier ces hommes, un groupe d'Afghans parfois en lien avec des passeurs kurdes qui faisaient connaître leurs activités aux exilés via des vidéos sur le réseau social TikTok. D'autres ont joué les rabatteurs dans les campements entre Dunkerque et Calais. La traversée vers l'Angleterre dans ce bateau surchargé qui s'est dégonflé s'était négociée jusqu'à 4000 euros. Ces passeurs, qualifiés de marchands de mort par la procureure de Lille, se présentent pour certains comme comme des petites mains, eux-mêmes menacées. Maître Kamel Abbas, l'avocat d'un des prévenus.
Ils nous indiquent que eux-mêmes sont candidats à l'exil. Mon client ne se considère pas comme étant un passeur. Bon, généralement, ce qu'on retrouve sur les bancs du tribunal, ce ne sont pas, en tout cas, je crois, les chefs de réseau. Je ne sais pas si les passeurs, s'ils ont idée qu'ils les envoient à la mort, ça n'est pas ce qu'ils recherchent, me semble-t-il.
Sur la côte d'Opale, les campements de fortune ne désemplissent pas, avec toujours autant de candidats à l'exil et des réseaux de passeurs solides. Certains trafiquants relâchés l'an dernier auraient déjà été retrouvés dans une autre filière.
Le reportage de Franck Hanson. Plus d'un demi-million d'élèves ont peut-être eu un petit peu de mal à trouver le sommeil hier soir. Ce matin, c'est l'épreuve de philosophie du baccalauréat. 4 heures pour plancher. Le plus jeune candidat cette année a seulement 8 ans et le plus âgé en a 78.
Tout autre chose à présent sur RTL. S'offrir le luxe d'un restaurant étoilé en 3 fois sans frais, c'est possible.
C'est Alain Yorka, chef étoilé Michelin, qui propose cette option dans son restaurant de la Colle sur Loup dans les Alpes-Maritimes. L'idée, c'est d'espérer attirer une nouvelle clientèle, Marie Bonnet-Blanc.
Pour le règlement, est-ce que vous faites en carte, en espèces, ou est-ce que vous voulez profiter du règlement 3 fois?
Pour cette famille de 5 personnes venues à l'occasion de la fête des pères, eh bien le règlement ce sera en 3 fois sans frais, car sans cette alternative, Richard et ses enfants n'auraient pas pu déjeuner ici.
On aurait peut-être même fait plus à la maison ou un petit restaurant du coin. Mais c'est vrai que franchement, moi ça fait un petit moment que je veux partager un petit moment comme ça avec les enfants. On ressent le pouvoir d'achat qui baisse et étaler, ça nous aide à avoir accès à ce genre de trucs sans se priver quoi.
En cuisine, derrière les fourneaux, on retrouve le chef Alain, c'est son restaurant. Et avec cette nouvelle facilité de paiement, il espère voir ses clients revenir mais aussi consommer différemment.
Mon menu du déjeuner, il est à 85 euros. Je prends une coupe de champagne, tout compris, minimum 150 euros. À deux, c'est 300. Ça peut-être leur permet de dire, tiens, on va pas prendre le menu à 85 euros, on va prendre celui à 120 aujourd'hui. Comme je paye en 3 fois sans frais, je pense qu'on peut aussi développer du chiffre d'affaires en faisant ça.
Pour régler en 3 fois sans frais, il suffit de laisser son empreinte bancaire ainsi que sa pièce d'identité. La banque s'occupe de régler l'entièreté de l'addition au restaurateur, mais aussi de faire l'échéancier au client.
Reportage signé Marie Bonnet-Blanc. Le football à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Le PSG a croqué l'Atlético de Madrid 4-0 hier soir. Prochain match vendredi contre les Brésiliens de Botafogo. Dans cette compétition dont le niveau est pour l'instant très aléatoire, le Bayern Munich a ainsi pulvérisé les Néo-Zélandais d'Auckland, 10 buts à 0. George Russell sur Mercedes a remporté le Grand Prix du Canada tard hier soir. Prochaine course en Autriche dans 15 jours. À noter aussi un Français champion du monde de judo. Et ce n'est pas Teddy Riner, mais Johan Benjamin Gaba qui l'a emporté hier soir chez les moins de 73 kilos. Enfin, toujours plus haut, encore plus haut. 6,28 m, c'est le nouveau record du monde de la perche. Et il est signé Armand Duplantis, le Suédois.
Et il ne s'est pas planté pour le coup. Merci, merci beaucoup William Galibert. Vous revenez à 7h.
Toujours plus haut.
À tout à l'heure. Emmanuel Macron participe au sommet du
RTL autour du monde.
Du G7 au Canada. Et juste avant d'aller sur place, il a fait une halte de plusieurs heures au Groenland. Le président français a voulu marquer son soutien à ce territoire convoité par Donald Trump. Personne en Europe ne pense que le Groenland est à vendre ou à prendre. Voilà ce qu'a déclaré le chef de l'État sur place pour RTL, Bénédicte Tassard.
Une mer de glace fissurée et fondant à vue d'œil, voilà ce qu'a pu constater Emmanuel Macron sur le glacier du mont Nunatarswak, avant de revenir à des considérations géopolitiques sur la terre ferme.
Le Groenland n'est ni à vendre ni à prendre.
Cette posture a été appréciée par les Groenlandais qui l'ont récompensé par un hourra venant du cœur. Mission accomplie pour les Français qui ont su prouver leur utilité, celle de l'Europe, estime l'ambassadeur français des pôles, Olivier Poivre d'Arvor.
On a pu constater finalement que les Chinois étaient assez loin d'être présents ici, que les Américains ont une posture évidemment de prédation, alors que je crois que la posture européenne, qui n'était pas évidente nécessairement pour le Danemark, commence à devenir une hypothèse. Et je pense que cette visite, elle n'est pas uniquement symbolique, elle est forte.
Elle est forte, Paris va ouvrir à Nuuk, la capitale, un consulat général et participer à des exercices militaires dans l'Arctique.
Bénédicte Tassard, envoyé spécial de RTL au Groenland avec Emmanuel Macron. Il est 5h38, on salue Arlette qui est à Blois. Il fait 12 degrés, thermomètre est juste. Si oui. Mon thermomètre est juste.
Oui, oui, c'est tout à fait, je pense qu'il est juste. Il est peut-être juste aussi, juste
frais. Ah peut-être, ouais. Oui, oui.
Ouais. 14 degrés à Bourges, le ciel est étoilé. Ça c'est un message d'Éric. Philippe est à Brive-la-Gaillarde. Alors j'aime bien son message. Il nous dit bonjour ma radio. Déjà, on est sa radio, j'adore. On y voit comme à travers une pelle ce matin. Donc, je pense qu'il a du brouillard, Philippe, parce qu'il y a quelques brouillards par endroit.
C'est pas l'expression.
Ouais, je connaissais pas l'expression, mais on imagine bien. Nathalie, elle est à Sallanche, au pied du Mont Blanc, 19 degrés et quelques nuages. C'est parti pour une nouvelle semaine. Bon courage, Nathalie. Nous avons aussi Pascal de Gironde qui est en ce moment à Annecy. Il fait 16 degrés. Le ciel est légèrement nuageux. Nous découvrons cette région avec des locaux qui nous donnent des conseils. Et puis, nous avons aussi Nicolas. Et je vais lire son message parce qu'il est tout simple. C'est « Bonjour, j'ai 54 ans ».
Eh bien, oui, bonjour, c'est efficace.
C'est efficace, c'est passé.
Bon anniversaire.
Elle vient d'entrer.
Il dit pas que c'est un anniversaire. Il dit qu'il a 54 ans.
Ah d'accord.
Oui.
Et voilà.
Il les aura peut-être encore demain.
Voilà, exactement.
Logiquement. Elles viennent d'entrer comme des stars dans ce studio. Christine Haas et Aline Pirodin. Bonjour toutes les deux.
Bonjour des stars, faut pas exagérer.
Et si.
Ah, c'est l'anniversaire de ma fille aussi. Hein.
C'est vrai. C'est important de le préciser. Voilà. On a tout dit, on peut arrêter l'émission
maintenant. Comment s'appelle-t-elle?
Jeanne.
Ben Jeanne, joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, Jeanne. Cette semaine, c'est le signe du...
Le lion,
très bien. Nous allons rugir avec vous. Aline, vous allez nous parler de vélo ce matin.
Ah oui, parce qu'on sait que c'est une bonne activité cardio, mais c'est une activité qui peut être bonne aussi pour le cerveau.
Restez avec nous sur RTL. Excellent début de journée.
RTL Matin. Jérôme Florin jusqu'à 7h.
Partir en livre. Le festival du livre jeunesse organisé par le Centre National du Livre revient du 18 juin au 20 juillet. Partout en France, des milliers d'événements gratuits célébreront le thème « Les animaux et nous ». Lecture à voix haute, ateliers, rencontres d'auteurs, jeux littéraires rendront hommage aux petites et grandes bêtes de nos contes, albums et romans. Programme sur partirenlivre.fr.
Julien Courbet règle vos problèmes en direct sur RTL.
L'amour va triompher, j'en suis sûr, mais le porte-monnaie va y laisser des plumes. Voici deux fiancés qui devaient se marier et figurez-vous que le domaine qui était réservé a été vendu et maintenant il n'y a plus de mariage. Planté à la dernière minute. D'ailleurs, si vous-même, vous avez été planté, un problème, quel qu'il soit, que vous soyez les mariés ou les professionnels, problème avec des mariages tout de suite, ça peut vous arriver. @RTL.fr. A tout à l'heure, 10h.
Ça peut vous arriver, l'émission leader en France de 10h à midi.
À l'écoute des pros avec Citroën. Entre évolution des usages et nouveaux enjeux de mobilité, le choix d'un utilitaire devient plus stratégique. Sébastien Caron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Stellantis Pro One France. Alors comment Citroën répond aux nouvelles attentes des professionnels?
Nous sommes aux côtés des pros depuis plus de 100 ans. Mmh. Aujourd'hui, Citroën propose une gamme 100% électrique de ses trois sociétés van à jumper, en passant par le Berlingo van ou le Jumpy.
Et ces véhicules s'adaptent vraiment aux différents besoins des pros?
Oui, avec le programme Custom Fit, Citroën personnalise chaque utilitaire selon l'usage. Aménagement, équipement, tout est pensé pour leurs besoins métiers. Et pour se lancer sereinement, nos utilitaires électriques sont éligibles à la prime CEE, ouais, avec la possibilité de les tester jusqu'à 30 jours grâce à l'offre « L'essayer, c'est l'adopter ».
Très intéressant. Et côté service?
Côté service, chez Citroën, on offre un accompagnement de proximité qui s'appuie sur notre réseau de Professional Center labellisé, ouais, mais aussi sur des solutions de financement adaptées aux besoins des pros.
Très bien. Et pour ceux qui veulent se renseigner?
Rendez-vous sur citroën.fr.
Merci.
Voir conditions sur site.
RTL Matin.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. On apprend ce matin l'arrestation du suspect de l'assassinat de cet élu démocrate du Minnesota et de son mari. Il était poursuivi, il y avait une chasse à l'homme depuis 2 jours aux États-Unis. Vance Bolter, c'est son nom. Il a été arrêté il y a quelques instants. Il a 57 ans. Il a été capturé vivant dans une zone rurale où une vaste opération de recherche a eu lieu ces dernières heures. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. L'actualité également, c'est cette escalade militaire qui se poursuit cette nuit entre l'Iran et Israël. Israël qui annonce ce matin affronter une nouvelle salve de missiles iraniens. Et puis, changement de pilote en vue chez Renault. Le patron du groupe depuis 5 ans, Luca De Meo, quitte ses fonctions. Le dirigeant de 58 ans part pour le groupe Kering du milliardaire François-Henri Pinault et qui comprend notamment Yves Saint-Laurent et Gucci.
RTL Matin.
Nicolas Sarkozy perd sa Légion d'honneur. Est-ce que vous êtes choqué ou est-ce que vous comprenez? Décision, je le rappelle, prise après sa condamnation confirmée pour corruption dans l'affaire dite des écoutes.
Oui, et vous réagissez sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Alors Pascal nous dit qu'elle n'est pas choquée. La loi, c'est la loi. Il faut qu'elle soit la même pour tous. Alain est d'accord. Je le cite, il a fait des conneries, donc il est sanctionné. Et puis, y a d'autres auditeurs qui ne sont pas d'accord. Monica trouve par contre que c'est honteux. Carole aussi, elle nous dit, il n'a tué personne. Il a même sauvé des enfants lors de la prise d'otage de l'école maternelle de Neuilly, c'était en 93. On va terminer avec le message d'Henri qui lui estime que la Légion d'honneur, de toute façon, n'a plus de valeur depuis qu'elle est donnée à n'importe qui.
Et puis on précise, on redonne cette précision quand même, que l'exclusion de la Légion d'honneur est automatique hein, quand un récipiendaire est définitivement condamné. Vous écoutez RTL 5h43.
RTL Matin. Ça va beaucoup mieux.
Aline Perraudin, vous nous parlez ce matin du vélo. C'est bien de faire du vélo, en plus d'être un mode de transport écologique. C'est une activité qui a plein de vertus pour notre santé.
Et oui, c'est une activité très complète, accessible au plus grand nombre, à tout âge, sans impact. Elle a l'avantage de ne pas être trop agressif pour les articulations. Pour les personnes qui ont de l'arthrose ou d'autres problèmes articulaires, faire du vélo, ça peut être plus facile que de marcher vite ou de courir. Et puis, ce qui est bien avec le vélo, c'est qu'on peut doser son effort, enfin, si on n'est pas dans une région trop montagneuse.
C'est bon pour le système cardiovasculaire.
Oui, c'est un sport d'endurance qui fait travailler le cœur, améliore la circulation sanguine. C'est une activité qui permet de se tonifier, de brûler des calories. On renforce ses muscles, en particulier ceux des jambes et des fessiers. On améliore son équilibre et sa coordination. Ça permet aussi d'avoir une bonne conscience spatiale et c'est certainement ce qui contribue à un autre bienfait santé du vélo.
Et quel est cet autre bienfait ?
Eh bien, du bienfait du vélo sur le cerveau. Ouais. Une nouvelle étude parue dans la revue médicale JAMA Network Open suggère que faire du vélo peut réduire le risque de maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Les chercheurs ont analysé les données de santé de plus de 479 000 adultes recrutés au Royaume-Uni, âgés en moyenne de 56 ans et demi et suivis pendant 13 ans. Les résultats ont montré que les personnes qui utilisaient régulièrement le vélo comme moyen de transport avaient un risque plus faible de développer une démence que celles qui marchaient, prenaient leur voiture ou un transport en commun. Et chez elles, l'hippocampe, la région, vous savez, du cerveau associée à la mémoire et à l'orientation spatiale, était bien plus développée.
D'accord. Et cette étude, elle dit pourquoi le vélo semble bien pour le cerveau ?
Alors déjà, c'est une activité cardio d'intensité plus élevé que la marche, ouais. Le débit sanguin augmente, y compris au niveau du cerveau, ce qui favorise le bon fonctionnement des neurones, une meilleure oxygénation, moins d'inflammation et aide à ralentir le vieillissement cérébral. Et par rapport à la marche, le vélo demande une attention particulière pour s'orienter. Ça exige de s'adapter constamment à son environnement. On doit anticiper, éviter des obstacles, bien s'inscrire dans la circulation. En cela, c'est une activité physique exigeante sur le plan cérébral, surtout en ville, on ne peut pas pédaler en mode automatique.
Et alors si on se déplace sur un vélo électrique, ça peut être bénéfique aussi ?
Alors, l'étude ne le dit pas, mais des recherches précédentes ont montré que le vélo électrique est également bon pour la santé physique et mentale, car on fait travailler de la même façon son sens de l'orientation, sa coordination, et puis on peut aussi pédaler activement, même avec une assistance. Ça peut être une excellente solution pour, vous savez, les personnes qui ont du mal avec le vélo traditionnel, qui sont rebutées à l'idée de devoir monter des côtes. Tout ce qui permet de rendre l'activité physique plus facile à intégrer dans sa routine quotidienne est de toute façon bénéfique.
Merci beaucoup Aline Perraudin, vous restez avec nous parce qu'on va jouer maintenant.
Ah, et puis on va faire gagner un auditeur, enfin deux parce que c'est un séjour pour deux personnes. 3 jours, 2 nuits pour 2 personnes avec des soins d'hydrothérapie. C'est à l'hôtel 4 étoiles Côte-Ouest au Sable d'Olonne. En Vendée, c'est face à la mer. Franchement, ce sera parfait pour se détendre, flâner.
On est bien avec la petite musique. Ouais,
On est dans le
salon avec un petit cocktail. Là.
Vous n'aurez que ça, quoi, la petite musique.
Ouais, d'accord.
Oui,
okay.
Parce que
peut-être une carte postale de l'auditeur qui aura gagné.
On l'espère. Pour gagner, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Il faut envoyer le mot cadeau, tout simplement, au singulier, on le rappelle, au 64 900 35 centimes par SMS. Tirage au sort en fin d'émission. Bonne chance à tous.
RTL, le Conseil Conso.
Le Conseil Conso avec vous ce matin, Laura Legault, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez sur le marché des produits hyper protéinés, marché en plein essor. On en parlait d'ailleurs il y a quelques jours avec Aline Perraudin ici présente. Alors comme le montre une dernière étude, ces ventes de produits explosent.
Oui, et dernière arrivée dans les rayons, le Babybel protéiné. Le nouveau petit fromage rouge débarque avec une promesse, 18% de protéines en plus. C'est donc un marché en plein essor, plus de 401 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'ultra frais protéiné et les skirs, en augmentation de 20% en un an d'après l'Institut Nielsen qui compile les chiffres de vente. Et pour les barres de céréales énergisantes, c'est plus 63%.
Et les industriels en profitent.
Il décline absolument tout sous forme hyperprotéinée, yaourt, fromage, pain de mie, céréales et même des pâtes. Des produits qui sont aussi plus chers. Les yaourts dits protéinés coûtent 2 à 3 fois plus que les yaourts classiques.
Et est-ce que c'est utile ?
Si on suit les recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, il faut 0,8 à 1 g de protéines par kilo. Concrètement, un adulte qui pèse 75 kg doit consommer entre 60 et 75 g de protéines par jour. Pas plus, en France, on consomme déjà trop de protéines animales. Pratiquement le double de nos besoins selon un rapport du Sénat publié la semaine dernière. Les professionnels de santé préviennent, une surconsommation peut être néfaste pour les reins. Et ces produits sont souvent ultra transformés, donc lourds en calories, très sucrés ou très salés. Ils peuvent aussi contenir des additifs comme des épaississants, des arômes artificiels et des édulcorants.
Et surtout qu'on en trouve déjà dans notre alimentation.
Sauf si vous êtes sportif de haut niveau, une alimentation équilibrée suffit. Pour les protéines d'origine animale, vous pouvez manger du poulet, des œufs ou du fromage blanc. Pour les aliments d'origine végétale, les lentilles, le soja ou le quinoa sont de bonnes sources de protéines.
Merci beaucoup Laura Legault. Christine, ah, c'est la semaine des lions.
Oui, c'est votre semaine alors.
Oui, c'est ma semaine, paraît-il. On commence par les Gémeaux.
J'ai encore oublié un anniversaire, celui de mon petit-fils.
Ah bon,
Stanislas.
Comment il s'appelle?
Stanislas.
Ah. Bon, voilà, joyeux anniversaire.
N'est pas
Stanislas.
Un oncle aussi. N'est pas un oncle aussi.
Non, pour l'instant, c'est
alors,
tout.
Commençons par les Gémeaux. J'ai le fils d'un voisin aussi.
La sœur du boulanger aussi.
La sœur du boulanger également, on salue.
Allez, Laurent, vous êtes pas sympa.
Allez, on commence par les Gémeaux, Christine.
Une semaine sous le signe de Mars, c'est-à-dire d'une forte énergie et d'une volonté pouvant aller jusqu'à l'obstination, surtout à partir de demain avec Mars en Vierge. Cancer, une semaine importante avec l'entrée du Soleil dans votre signe samedi, conjoint à Jupiter, sensible aux dissonances de cette planète. Guerre et paix, les deux peuvent coexister. Lion, deuxième des camps, Vénus occupera votre secteur professionnel toute la semaine et ce sera la bonne période pour signer un contrat, trouver un accord ou encore atteindre un objectif.
Les Vierges.
La semaine sera marquée par l'entrée de Mars dans votre signe qui aura lieu demain matin. La dernière fois qu'elle était chez vous, c'était mi-juillet 2023. Ça vous dit quelque chose ? Balance, les plus chanceux cette semaine, si on peut employer ce mot, sont ceux du deuxième décan, qui va du 3 au 13 octobre, avec Vénus dans un secteur d'argent. Vente ou placement vous rapporteront. Scorpion, vous n'aurez pas à vous plaindre cette semaine, moins que d'autres signes. Le bon aspect qui se met en place jusqu'à dimanche entre Jupiter et Mars vous donne la niaque.
Les Sagittaires.
Les meilleurs jours de cette semaine seront incontestablement jeudi et vendredi. Vous pourrez prendre des initiatives, briller et réussir tout ce que vous entreprenez, surtout premier décan. Capricorne, exception faite des tout premiers jours du signe, encore dans une sorte de tempête, mais qui seront aidés dès demain par Mars. Tout baigne pour les autres et surtout deuxième décan. Verseau, premier décan, nous en reparlerons en détail, mais vous devez déjà sentir l'arrivée prochaine de votre planète Uranus en Gémeaux. Une évolution positive s'annonce.
Les Poissons.
La semaine sera vraiment agréable pour ceux nés entre le 1er et le 10 mars. Vénus est en harmonie avec vous et vous plairez sans aucun effort à tous ceux que vous croiserez. Bélier, cette semaine, c'est encore le troisième décan le plus favorisé jusqu'à l'entrée du Soleil en Cancer le 21. Mais si vous êtes né en mars, prévoyez des gros remous autour de cette date. Taureau, tout semble aller dans le bon sens cette semaine, que ce soit grâce à votre rapidité d'esprit, à votre gentillesse ou même aux décisions que vous allez pouvoir prendre.
Merci beaucoup Christine.
Mais de rien.
On vous souhaite une très très bonne semaine. Où retrouve-t-on votre horoscope ?
Sur rtl.fr et sur celastro.com.
C'est une excellente idée. Merci à vous.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
On retrouve Philippe Cavrivière que vous retrouvez tous les jours juste avant 8h.
Le corsaire,
oui.
Abator qui avait un bandeau quand même sur l'œil. Pas sûr que je serais très à l'aise si je monte dans un avion et que je vois que c'est lui qui pilote avec le bandeau à droite, une conjonctivite à gauche. Je sais pas si je monte. Bonjour Pascal. Corsaire, dessert, principalement les dom-toms également, Abidjan, Cotonou, Bamako, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Madagascar et l'île Maurice. Ce qui en fait la compagnie préférée de Bruno Retailleau dans le sens des départs et la compagnie qu'il aime le moins dans le sens des arrivées. Évidemment, la question écologique avec l'avion se pose, l'avion ça pollue. Mais c'est vrai que pour aller à New York, c'est quand même plus simple que le vélo jusqu'à maintenant. Cela dit, les gens reprennent de plus en plus l'avion. C'est pas bon pour la planète, mais heureusement, il y a des compagnies d'aviation éco-responsables, comme Air India, ou des constructeurs comme Boeing, qui font énormément pour qu'on ait moins envie d'emprunter ce moyen de transport. Bravo à eux.
Philippe Cabrivière, que vous retrouverez en direct tout à l'heure, juste avant 8h. Marina, à quoi va ressembler ce lundi, en quelques mots?
Un lundi au soleil.
C'est vrai, à ce moment-là?
Ah bah, si vous chantez, on est mal barré.
On va détailler tout cela dans un court instant. Restez avec nous sur RTL. RTL.
Sur RTL.
Tout savoir sur.
Avec Fortunéo, préparer sa retraite tout en valorisant son épargne, c'est désormais possible grâce à son nouveau plan d'épargne retraite. Amandine Regissard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des produits de placement chez Fortunéo. Alors on dit que réduire ses frais, c'est la clé pour améliorer la performance.
Oui, chez Fortunéo, on pense qu'un bon PER, c'est un PER sans frais inutiles. Chez nous, c'est zéro frais d'entrée ou de versement. Et seulement 0,5% de frais de gestion sur les unités de compte en gestion libre.
Et côté rendement?
Alors en 2024, le fonds en euros a rapporté 3,20% net de frais annuels de gestion hors prélèvements fiscaux et sociaux. D'ailleurs, on peut y investir 100% de son épargne.
Ouais.
Et pour diversifier son portefeuille, on a plus de 340 unités de compte disponibles, dont des ETF ou des fonds IMO.
Et votre PER vient de recevoir un prix en avril.
Oui, le label d'excellence par les dossiers de l'épargne Minalea.
Merci Amandine.
Merci.
Ce produit comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Plus d'informations sur les frais et le contrat sur fortuneo.fr.
Laurent Deutsch sur RTL, entrée dans l'histoire.
Tout à l'heure, direction l'université de Cambridge, avec des étudiants qui vont trahir sa majesté au profit des soviétiques. Les 5 de Cambridge, espions et camarades, c'est tout à l'heure à 15h d'entrée dans l'histoire sur RTL.
Entrée dans l'histoire, c'est l'émission d'histoire la plus écoutée de France.
Tout savoir sur la cardiomyopathie hypertrophique avec l'Alliance du cœur et le soutien de Bristol Myers Squibb. Inconnue des Français, la cardiomyopathie hypertrophique est une maladie cardiaque qui touche environ une personne sur 500. Laurence, vous en êtes atteinte? De quoi s'agit-il?
C'est une maladie héréditaire. En fait, les parois du muscle cardiaque s'épaississent, ce qui peut gêner la circulation du sang vers le corps et entraîner des complications comme l'insuffisance cardiaque ou l'AVC.
Quels sont les symptômes?
L'essoufflement. Monter des escaliers ou porter un pack d'eau devient insurmontable. Et aussi des douleurs dans la cage thoracique et même des pertes de connaissance.
Et que conseillez-vous?
Si vous êtes essoufflé, consultez votre médecin. Les progrès récents peuvent améliorer notre quotidien et éviter des conséquences graves.
Merci Laurence.
Merci.
Plus d'infos sur bms.com/fr.
RTL Matin.
On est lundi matin, bonne chance à tous ceux qui passent le bac. Aujourd'hui, c'est la philo. Ben oui, ils dorment encore, hein, j'imagine, les candidats au bac général et technologique qui passent la philo. Ils sont plus de 530 000, c'est de 8h à midi. Vous êtes nombreux à nous faire partager vos souvenirs sur le répondeur du 3210, par exemple, Christopher, qui nous raconte ce souvenir du bac. Écoutez.
Bonjour l'équipe d'RTL, bah moi j'ai réussi à passer l'oral de français sans ma convocation, je l'avais oublié, il se trouve que la prof par chance n'a pas pensé à vérifier ma convocation, donc j'ai passé l'épreuve et après l'épreuve je me suis dit tiens je vais aller me chercher un petit pain au chocolat et je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portefeuille dans lequel se trouvait également ma pièce d'identité, donc j'ai passé l'épreuve de français totalement incognito.
Oui, bah voilà, souvenir de Christopher sur le groupe Facebook de l'émission.
Il a eu de la chance. Hein.
Marina, le soleil va finir par s'imposer quasiment partout aujourd'hui.
Oui, mais va falloir en effet patienter un petit peu parce qu'on a les restes du temps perturbé de ce week-end. Alors plus d'orages, hein, ça c'est terminé. Mais il y a encore des passages nuageux et quelques averses qui traînent de façon très localisée. Par exemple en ce moment vers l'Alsace ou encore le territoire de Belfort. Bon, plus généralement de l'Alsace à la Franche-Comté en descendant vers le nord de Rhône-Alpes, il y a encore un ciel nuageux et vous pouvez avoir quelques gouttes. On a des nuages aussi vers les Pyrénées et puis du nord de la Bretagne à la Normandie où là parfois c'est doublé de brouillard, mais il y a du brouillard aussi dans l'Yonne, il y a du brouillard aussi vers l'Auvergne, mais c'est vrai qu'au fil des heures eh bien tout ça va se dissiper et c'est le soleil qui va s'imposer. S'il reste quelques passages nuageux, ils vont juste décorer le ciel, ce sera pas bien méchant, plutôt donc sur le tiers nord du pays jusqu'au nord des Alpes, un peu encore sur les Pyrénées, mais sinon globalement ce sera un temps sec et ensoleillé sur une grande partie du pays. Un petit mot plutôt du vent. Le vent qui souffle pour le Mistral et la Tramontane en rafale entre 50 et 80 km par heure.
Et pour l'instant, il fait chaud dans le sud-est.
Ah oui, et surtout sur la Corse. Il faut savoir que hier, la Corse a battu un record de chaleur pour un mois de juin. C'est le cas à Figari, où il a fait 39,3 degrés. Donc grosse chaleur. Ce sera un peu moins chaud aujourd'hui, mais ce sera chaud quand même. Et c'est aussi pour ça qu'il fait très chaud ce matin, puisqu'on a par exemple à Calvi 28 degrés en ce moment. C'est là où il fait le plus chaud ce matin. Pour les autres températures, c'est un peu plus frais plus on va vers le nord du pays. Hein. Il ne fait que 9 degrés à Charleville-Mézières, on a 12 à Lille, il fait 14 à Paris. Et pour les températures, cet après-midi, entre 19 et 32 degrés. 32, ce sera pour Bastia et Montpellier. 31 à Perpignan, 30 à Marseille, 29 à Ajaccio. Alors 29 à Ajaccio, c'est au-dessus des moyennes de saison, mais hier, il en faisait quand même 35. 28 à Cognac, vous aurez 27 au Mans, 27 à Limoges, 26 à Paris et à Lyon, 25 degrés à Lille, à Reims et à Nevers, 22 à Abbeville, 20 à Brest et donc 19 à Cherbourg.
Un petit aperçu du reste de la semaine ?
Ah ben oui, je vais vous le donner, d'autant plus qu'on a un message d'un fidèle auditeur, Franck Denis, qui est en vacances en Corse et il veut savoir quel temps il aura. Alors, vous aurez chaud déjà et c'est ce qui va dominer cette semaine pour tout le pays parce que chaque jour, on prendra 1 degré, voilà, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc la fin de semaine sera très chaude. On aura une vague de chaleur, canicule, alors là la question se pose, mais en tous les cas on part sur une vague de chaleur avec une moyenne ce week-end de 32 au nord et de 33 au sud avec du soleil, sauf quand